Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour et je reçois Jean-Claude Soubra, membre de l'ADMD. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Alors première question, qu'est-ce donc l'ADMD ?
Alors l'Association pour le droit à mourir dans la dignité est une association nationale qui a vocation humanitaire. Elle a pour objectif de promouvoir le droit de disposer de façon libre et réfléchie de sa propre personne. Ce droit est, comment dirais-je, un attribut de la liberté qui appartient à chaque être humain. La DMD a également pour rôle de faire reconnaître et de rendre possible l'exercice licite du droit fondamental de choisir librement le moment et la manière de terminer sa vie selon ses conceptions philosophiques et morales.
Alors, Quand vous dites ça comme ça, ça paraît assez évident. Le droit de mourir dans la dignité, le droit de choisir la façon dont on finit ses jours. Or, on a beaucoup d'opposition aujourd'hui en France encore à ces projets de loi. L'opposition, elle vient de qui ?
Alors, si vous voulez, on a effectivement aujourd'hui un certain nombre de groupes de pression d'origines tout à fait diverses. Hein. Ça peut être des origines professionnel, effectivement, par des cultures de professionnelles, on peut avoir un certain nombre de personnes qui sont assez réservées sur la possibilité effective des gens à pouvoir disposer librement des conditions dans lesquelles les derniers moments de leur vie vont se dérouler, et d'autres qui considèrent, pour des motifs plus religieux, que la venue sur Terre appartient à quelqu'un d'autre et que cet autre être a le droit de choisir effectivement à quel moment nous allons pouvoir quitter la Terre, on va dire ça comme ça. Donc ces groupes d'opposition sont aujourd'hui particulièrement actifs sur l'ensemble de notre territoire et ce d'autant plus qu'il faut bien le dire, ce n'est pas une critique mais tout simplement un constat, qu'on est, face à ce problème de la mort, devant une certaine frilosité de la part de nos élus politiques qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés à se positionner par rapport à ça. J'en veux pour preuve la multitude de textes qui sont parus depuis déjà maintenant une dizaine d'années et qui, à chaque fois, abordent la situation sans avoir le courage d'aller jusqu'au bout.
Donc on a des lois en demi-teinte qui permettent certaines choses, mais qui ne vont pas au bout des possibilités.
Tout à fait. Et d'ailleurs, malheureusement, ça s'est à nouveau concrétisé par la loi du 2 février 2016, qui est intitulée une loi créant de nouveaux droits pour les malades et les personnes en fin de vie, qui en définitive ne fait que reprendre en partie ce qui avait déjà été écrit dans la première loi Leonetti et qui ne va là non plus, pas au bout et qui permet à nouveau pour, avec des dérogations, il va à nouveau créer des périodes de tension, de difficultés de mise en œuvre, notamment ce qu'on appelle les directives anticipées.
Alors, pour parler clairement, quand on parle de finir ses jours dans la dignité, on parle d'euthanasie et de suicide assisté.
Voilà, tout à fait. Alors, je crois qu'effectivement, le mot euthanasie a tendance à choquer. Il faut seulement se rappeler que euthanasie en grec veut dire bonne mort. Donc, c'est pas quelque chose qui doit effrayer. C'est au contraire quelque chose qui doit permettre aux gens de pouvoir choisir, et j'insiste bien sur le terme de choisir, les conditions dans lesquelles leurs derniers moments de leur vie vont se dérouler. C'est en définitive la possibilité de dire, tout au long de ma vie, j'ai pu organiser le déroulement de ma vie. Depuis ma naissance, et à partir notamment de ma majorité, on m'a reconnu comme un citoyen libre. Donc cette liberté qu'on m'a accordée et que j'ai pu développer depuis notamment ma majorité, comment brutalement, au dernier instant de ma vie, on me la supprimerait et je serais obligé de me contenter soit des pressions qui peuvent être amicales, certainement, qui pourraient être exercées par la famille ou par le médecin traitant, ou tout simplement attendre que le hasard décide de quelle manière je dois pouvoir partir. Donc ça, je pense qu'il est absolument essentiel que cette liberté soit enfin définitivement reconnue et qu'elle puisse être appliquée, non pas uniquement au moment de la vieillesse, mais tout au long de la vie. Malheureusement, on sait que la vie, parfois, crée des circonstances ou des incidents qui mettent des personnes très jeunes dans l'incapacité de pouvoir continuer à exprimer ce qu'ils souhaitent. Et donc, j'en viens au fait que plus on sera en capacité d'établir, lorsqu'on est en bonne santé, ces directives anticipées, mieux on évitera les situations difficiles au moment du choix.
Oui, parce que la mort peut arriver, ça n'arrive pas qu'aux gens vieux. On a des situations dramatiques, on en entend parler régulièrement dans les médias, de gens qui sont en incapacité aujourd'hui de s'exprimer et qu'on laisse dans des conditions de fin de vie déplorables, qu'on maintient en vie, on ne sait pas exactement pourquoi. Et ça fait partie des choses qui motivent la DMD, ces cas dramatiques.
Ben oui, tout à fait, si vous voulez. On sait très bien aujourd'hui qu'on a à nous toujours dans les établissements d'hébergement, notamment pour personnes âgées, dépendantes, des situations où des personnes sont maintenues en vie, si on peut dire, dans des circonstances qui sont particulièrement difficiles et dans des conditions et des qualités de vie qui sont tout à fait contestables. Mais on sait aussi que pour des raisons parfois purement fonctionnelles, parfois résultant peut-être de défauts d'organisation, sur notre territoire national, tous les jours, il y a un certain nombre d'actes de participation active à la fin de vie qui sont mis en œuvre et qui sont réalisés. Et là, de ce côté-là, ça se fait en catimini. Et on n'a jamais eu l'assurance que tous ces actes qui sont réalisés avec l'accord de l'intéressé. Ce que l'on souhaite vraiment, c'est que les choses soient, comment dirais-je, réglées par la loi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, une loi, elle a pour but de protéger le citoyen. Et que dans une démocratie, une véritable démocratie, il n'y a en définitive rien de mieux pour protéger la liberté d'un citoyen.
Ce que vous essayez de dire là, c'est qu'on a des dérives du coup. Comme on n'a pas de loi et de cadre législatif, on a des gens qui auraient souhaité mettre fin à leur jour dans des bonnes conditions, on va dire anticipées en tout cas. Et puis il y a des gens à qui on n'a pas demandé leur avis et à qui on fait ce petit service là, mais sans être vraiment sûr que c'était leur volonté. Donc ça, on a vraiment un vide là, un problème. Parce que quand on est pro-choix, là, on n'a pas le choix.
Tout à fait, vous avez raison. Et je pense que, si vous voulez, c'est ce genre de choses qui se produit aujourd'hui parce que, justement, on n'a pas eu la volonté de pouvoir régler le problème au niveau d'une loi qui traiterait intégralement du sujet. Certaines personnes, ont mis en avant des épouvantails pour essayer de continuer à rendre l'action de nos politiques particulièrement difficile. On a entendu dire que si jamais la loi permettant l'aide au suicide assisté était mise en œuvre, on aurait par exemple une espèce d'exode de personnes âgées qui partiraient de notre pays parce qu'elles craindraient d'être assassinées. On nous a aussi dit qu'il y aurait brutalement une augmentation très importante de personnes qui demanderaient à être euthanasiées. Pourquoi faudrait-il penser que ce genre de choses pourrait exister en France, alors que dans des pays voisins, les Pays-Bas par exemple, la Belgique, la Hollande, où la loi sur l'euthanasie est acceptée parfois depuis plus de 15 ans, on n'a jamais constaté ce genre de phénomène. Donc je crois qu'on continue à manipuler un peu l'opinion publique et l'avis des décideurs avec des chimères qui, fort heureusement, ne se réaliseront pas.
Ça me fait penser au grand spectre du nombre d'avortements qui était censé beaucoup augmenter avec les lois le légalisant. Voilà, ça n'a pas eu lieu.
Oui. On peut pas s'empêcher de faire des comparaisons. Alors je sais très bien quand je dis ça que, comme on dit toujours, comparaison n'est pas raison. Ceci étant, c'est vrai qu'on peut constater aujourd'hui que la frilosité que l'on rencontre pour légiférer sur le problème de la fin de vie est quand même très similaire avec l'attentisme, comment dirais-je, les démarches contradictoires que ont déployé un certain nombre d'élus politiques au moment de la mise en place et des discussions sur les IVG. Aujourd'hui, même si parfois il y a encore un peu, je vais utiliser un mot un peu fort, mais des relents pour revenir sur cette avancée sociale très importante, je crois qu'il y a une réalité qui a disparu. C'est-à-dire que toute la période, les heures sombres des avortements clandestins en France est aujourd'hui disparue, fort heureusement. Or, faisons le parallèle avec l'absence de réglementation sur l'assistance de la fin de vie. Eh bien, on continue de ce fait-là, comme on n'a pas de loi, eh bien, à favoriser l'existence de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire pour des fonctionnements plus administratifs ou organisationnels, eh bien, on décide le départ de telle ou telle personne. Décision qui est prise en équipe, certes, mais sans avoir la certitude que la personne ait été forcément sollicitée pour donner son accord ou son avis.
Ça réveille aussi des grandes inégalités, c'est-à-dire que les gens qui ont les moyens vont dans les pays frontaliers, comme la Suisse par exemple, où ce sont des pratiques qui sont légalisées. Et voilà, quand on a les moyens, on peut éventuellement aller en Suisse pour finir sa vie comme on l'a décidé. Ça, c'est pour les riches.
Oui, si vous voulez, effectivement, il y a cette possibilité de pouvoir s'expatrier. Mais là aussi, pourquoi accepter aujourd'hui, ou du moins essayer de fermer les yeux sur ce départ de Français vers des pays étrangers pour pouvoir répondre à leur volonté, alors qu'on est en train, dans le même temps, soi-disant, de nous dire au niveau du ministère de la Santé qu'on est en train d'améliorer et d'augmenter les capacités pour recevoir des enfants handicapés, pour éviter que l'exode qu'on constate là aussi à ce niveau-là, des enfants qui sont obligés d'aller en Belgique parce qu'on n'a pas assez de place en France. Donc je crois que il y a là aussi une espèce de cohérence au niveau de la législation française qu'il faudrait quand même arriver à préserver, si ce n'est à développer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais que les personnes qui en ont les moyens ne sont pas toujours tenues d'aller mettre en exécution leur volonté dans les pays étrangers. On sait très bien que là aussi, il suffit parfois d'avoir un bon poste, d'avoir un bon carnet d'adresses pour pouvoir obtenir dans un établissement sanitaire de notre territoire l'assistance que l'on refuse au plus grand nombre, tout simplement parce que nous avons des relations avec un professionnel responsable d'un établissement, par exemple. Donc, effectivement, ceux qui ont les moyens financiers peuvent aller en Suisse, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, au niveau de la DND, nous avons un certain nombre de nos adhérents qui ont engagé à ce niveau-là des démarches. C'est vrai que ça représente des sommes très importantes, puisque on peut penser qu'une intervention aujourd'hui en Suisse notamment, c'est de l'ordre de 6 à 10 000 euros qu'il faudra à un moment donné engager. Mais c'est aussi, au-delà de l'aspect financier, une organisation matérielle, puisqu'il faut organiser le dernier voyage. Il faut organiser ce dernier voyage, c'est-à-dire notamment en termes de transport, mais aussi en termes d'hébergement, puis aussi en termes d'accompagnement. Parce que si on a, par exemple, dans le département, nous avons un certain nombre de personnes qui sont totalement isolées par rapport au phénomène familial. Donc nous organisons de notre côté l'accompagnement lorsque c'est nécessaire. Et c'est vrai que c'est particulièrement contraignant, ne serait-ce que pour les bénévoles qui accompagnent, parce qu'on accompagne quelqu'un vers l'échéance de sa vie, et une fois que l'événement s'est déroulé, le bénévole doit réintégrer sa propre vie. Ce n'est pas toujours bien évident.
Quand on parle d'une loi qui permettrait l'euthanasie et le suicide assisté, comme vous êtes pro-choix, comme ça a déjà été prononcé plusieurs fois, vous êtes aussi pour un accès universel aux soins palliatifs. C'est-à-dire que si l'on souhaite finir ses jours avec toutes les assistances qu'on connaît pour continuer de vivre tant que c'est possible avec des antidouleurs, des choses comme ça fait partie aussi du texte que vous proposez.
Tout à fait. Et là, je crois que vous avez raison de soulever ce problème-là, parce qu'il faut éviter toute incompréhension. Nous ne sommes pas contre les soins palliatifs. Pour nous, les soins palliatifs, c'est quelque chose d'absolument indispensable qui doit permettre effectivement de prendre en charge les personnes qui se trouvent dans ces situations et qui ont effectivement besoin d'une assistance médicale pour être véritablement accompagnées. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que sur l'ensemble du territoire national, on est en capacité, grosso modo, de répondre à 50% des demandes. Ça veut dire qu'on a quand même 50% de personnes qui auraient besoin de soins palliatifs et qui, faute de place, ne parviennent pas à avoir l'assistance médicale qu'ils ont droit. Je rappelle tout simplement que quand même la loi qui prévoit les soins palliatifs prévoyait d'entrée de jeu que ces soins palliatifs pourraient être exécutés, y compris au domicile. Rien n'a été fait de ce côté-là.
Ça signifie quoi concrètement qu'il y a des gens qui meurent en souffrant ?
Ça signifie qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a des personnes qui meurent en souffrant. Et ça veut dire aussi aujourd'hui dans notre pays que, comment dirais-je, on arrive à un moment donné à être peut-être mieux. Alors je sais bien que mes propos vont peut-être un petit peu choquer, mais je crois qu'il faut... Vous savez, il y a 2 ans à peu près, on a eu des procès retentissants dans notre pays parce qu'il y avait des êtres humains qui avaient des comportements et qui développaient de la maltraitance vis-à-vis de leur animal de compagnie. Il a fallu qu'il y ait une loi qui paraisse, qui permette de reconnaître à ces animaux de compagnie que c'était des êtres possédant une conscience et que de ce fait-là, si on les maltraitait, on pouvait être condamné. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on empêche que les animaux, et c'est une bonne chose, soient effectivement maltraités. Et donc parfois, lorsque le propriétaire estime, après l'avis notamment du vétérinaire, pourquoi pas, que son compagnon n'est plus en état d'avoir une vie de qualité, il va rencontrer un vétérinaire pour faire en sorte que la fin de vie de son compagnon se mette en œuvre, soit mise en œuvre. Ce qu'on reconnaît, et c'est juste, à ces animaux, on ne le reconnaît pas aux êtres humains. C'est quand même une véritable interrogation. Voilà. On a, je crois, encore aujourd'hui, dans notre pays, beaucoup trop d'êtres humains qui meurent seuls, alors que fort heureusement, les animaux de compagnie sont, comme vous dites, là, accompagnés par leur propriétaire jusqu'au dernier moment de leur vie. Il y a là matière, pour le moins, à s'interroger.
Vous êtes ici aujourd'hui pour parler effectivement de la DMD, mais pas seulement, dans le studio de Radio Diwa en particulier, pour parler d'un événement qui aura lieu le mardi 24 mai à Die au Café Théâtre Andarta. Et pour parler de ça, il y a aussi Daniel Rassa dans le studio avec nous. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Ce jour-là, qu'est-ce qui est prévu au Café Andarta ?
C'est une, une rencontre, un débat avec une... présentation par Mélanie Raphaël, qui est un membre de l'équipe des jeunes de la DMD, parce que nous en avons discuté, ça a été dit, la question ne se pose pas que pour les personnes âgées, et il serait bien que les jeunes soient informés de ce qui peut arriver et de la possibilité de prendre... des décisions concernant leur fin de vie. Bien sûr, quand on a 20 ans, c'est pas la préoccupation la plus importante, mais ça n'empêche pas d'y réfléchir et d'en discuter.
C'est ça, c'est le point important de l'exposé qui aura lieu ce jour-là, c'est que la DMD... bénéficie d'une section, on va dire, jeune, parce que effectivement la fin de vie n'arrive pas que lorsqu'on est âgé. Et il existe un fichier, on va en parler un peu avec vous Jean-Claude, un fichier des directives anticipées. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ?
Alors, concernant les directives anticipées, je voulais simplement rappeler que les directives anticipées, c'est un document écrit qui a pour but de faire connaître la volonté ou les volontés de la personne par rapport à ses derniers moments de vie et ce qu'elle souhaite vis-à-vis des traitements qui sont mis en place et des soins qui lui sont prodigués, dans l'hypothèse et dans la situation où elle ne serait plus en mesure d'exprimer elle-même sa propre volonté. Je crois que c'est très important de dire ce genre de choses, parce qu'il ne s'agit pas de considérer qu'une fois qu'on avait réalisé ces directives anticipées, on est dispensé, voire privé, de l'expression de sa volonté. Les directives anticipées ne peuvent intervenir que le moment, à partir du moment où la personne n'est plus en capacité de le faire directement. Ça, c'est la première chose. Donc, les directives anticipées, c'est effectivement faire connaître cette volonté. Alors, comment on fait connaître cette volonté? Eh bien, d'abord, quand on élabore ces directives anticipées, ce qui est intéressant, c'est d'en parler avec les membres de sa famille, avec ses proches, pour, comment dirais-je, dans ce dialogue, essayer d'échanger et faire connaître sa façon de voir, sa façon de conception de la vie, les valeurs que l'on peut avoir par rapport à ce genre de choses. Et puis, on peut aussi en parler avec son médecin traitant, ne serait-ce que pour avoir une meilleure connaissance de la maladie que l'on a et peut-être des perspectives d'évolution qu'il faut en attendre. Donc, je dis ça, c'est parce que je pense que quand même au moment où on rédige ces directives anticipées, c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement avoir un véritable dialogue avec nos proches, un véritable dialogue que malheureusement on n'a pas, à mon sens, assez souvent dans les familles. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ces directives anticipées, une fois qu'elles sont écrites, il faut qu'elles puissent être connues. Alors, là, on a effectivement une petite difficulté, c'est que les directives anticipées, comme je disais tout à l'heure, elles n'ont lieu à être connues que le jour où elles ont besoin d'être exprimées. Donc ça pose le problème de leur confidentialité qu'il faut effectivement arriver à préserver. Alors c'est pour ça que la loi du mois de février 2016 a prévu que, d'abord, ces directives anticipées, contrairement à ce qui était décidé avant par la première loi Lenotti, n'auront plus une durée maximale de 3 années comme c'était prévu jusqu'à maintenant. Mais maintenant, il n'y aura pas de limite de temps. Elles pourront effectivement être regroupées dans un ou plusieurs organismes au niveau national. On attend le décret d'application qui devrait paraître en principe assez rapidement, qui devra dire quels sont les organismes qui sont reconnus au niveau national comme centralisateurs de ces directives anticipées. Ces organismes ou cet organisme, il aura pour mission notamment d'informer régulièrement les signataires de ces directives de l'état de leur directive pour que s'ils le souhaitent, ils puissent les mettre à jour parce qu'elles seront, on pourra à tout moment les mettre à jour, voire les annuler si on le souhaite nécessaire. Et dernière chose, la Haute Autorité de Santé a constitué un groupe de travail dont l'objectif était d'élaborer un modèle, on peut dire ça comme ça, un modèle de directive anticipée et qui devrait en principe être annexé au décret d'application. Alors ce modèle de directive anticipée, pour faire court, il comprendra deux parties. Une partie qui intéressera l'intéressé avec ses coordonnées, l'expression de sa volonté et un certain nombre d'aspects tout à fait personnels. Et ensuite, une deuxième partie qui reprend un petit peu les grandes orientations de la loi du mois de février 2016 et qui précise un petit peu ce qu'est effectivement la personne de confiance dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Juste un petit point d'ambiguïté que l'on a en tant que quand on est ce qu'on appelle représentant d'usagers, c'est que les professionnels qui ont contribué au groupe de travail de l'agence de la Haute Autorité de Santé ont réussi à convaincre le groupe qu'il était préférable de faire en définitive deux modèles de directives anticipées. Qui serait donc joint au décret d'application. Un modèle pour les personnes atteintes de maladie et un modèle pour les personnes exemptes de toute maladie. Alors, très honnêtement, moi, ça me laisse un peu dubitatif parce que envisager aujourd'hui que l'on puisse fort heureusement croiser beaucoup, beaucoup de personnes qui sont exemptes de toute maladie, je pense que c'est un doux rêve, mais après tout, pourquoi pas?
Et puis, quand on rédige, comment sait-on qu'on sera exempt de maladie toute la vie? Enfin, c'est assez compliqué, effectivement.
Je ne vous répondrai pas.
Alors, le mardi 24 mai, une sorte de conférence où Mélanie Raphaël viendra nous parler de la DMD, de toutes vos actions, de tout ce que... Comment va-t-on faire en si peu de temps, parce que ça commence à 13h30, comment va-t-on faire en si peu de temps pour parler de tout, quel va être son axe ?
Eh bien, si vous voulez, Mélanie va effectivement essayer d'avoir un temps très très bref. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui le fera ou moi qui le ferai, mais enfin, il y aura un temps très très bref qui sera consacré à un rappel rapide à la fois de l'organisation et du fonctionnement de l'ADMD au niveau national comme au niveau départemental, et une présentation de la situation juridique actuelle concernant tout ce qui concerne la fin de vie, de manière à consacrer la majorité du temps à effectivement un échange. Parce que ce qui est important, c'est que l'on puisse être en capacité de présenter un texte qui suscite des interrogations et donc d'entendre les interrogations des gens. Et là, c'est vrai que on essaie, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait effectivement une participation de l'ensemble des générations, de manière à ce que l'on puisse avoir et qu'on sorte de l'idée trop souvent répandue que ce problème-là ne concerne que les personnes avancées en âge.
Donc ce jour-là, un moment d'échange, de débat, de questions autour de cette question de la fin de vie.
Autour de la question de la fin de vie et autour de qui doit faire quoi et pourquoi le faire. Voilà. Et comment le faire. Voilà. Et ça m'amène, si vous voulez, à évoquer le deuxième aspect, qui est l'aspect de la personne dite de confiance. Cette personne de confiance, c'est effectivement une démarche qui vient compléter les directives anticipées, puisque la personne de confiance aura vocation à justement avoir connaissance des directives anticipées, et elle aura vocation à faire connaître ces directives anticipées, à les faire respecter le moment où la personne signataire ne sera plus en capacité de le faire d'elle-même. Et là, j'insiste bien sur le fait que la personne de confiance n'aura pas à exprimer un avis, n'aura pas à exprimer son avis, elle aura à faire respecter la volonté de la personne qui l'aura désignée comme personne de confiance. Donc c'est un travail important et c'est un engagement personnel.
C'est le même travail, entre guillemets, hein. Je mets des grands guillemets, d'une personne à qui on fait une procuration pour son vote.
Tout à fait, tout à fait. La personne à qui on donne droit de vote, normalement s'exprime, enfin pas normalement, s'exprime au nom de la personne qui l'a mandaté. Bien entendu, tout le monde le sait.
Voilà, donc là ce serait le but aussi, c'est de pouvoir être... Ne plus avoir toutes ses facultés, de pouvoir s'en remettre à quelqu'un.
Voilà. Et là, si vous voulez, de ce côté-là, justement, on peut... Enfin, moi, personnellement, je me félicite de la position des élus qui ont été en capacité d'affirmer le rôle premier de la personne de confiance, y compris vis-à-vis de la famille. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une personne de confiance qui est désignée, si le représentant du corps médical a quelques interrogations, il ne doit pas s'adresser... et que l'intéressé ne peut pas s'exprimer, il ne doit pas s'intéresser à questionner la famille, il doit questionner la personne de confiance qui a été désignée. Donc il y a une priorité qui est donnée du fait de la réglementation qui est absolument essentielle et importante.
Alors si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, et cette interview a dû susciter des réactions, j'imagine, chez les auditeurs, eh bien on peut déjà vous donner rendez-vous le mardi 24 mai à 13h30 au Café Théâtre Andarta à Die. Et puis vous pouvez également vous rendre sur le site de l'ADMD. Vous tapez dans votre moteur de recherche ADMD et vous tomberez dessus directement. Ça permettra aussi, j'imagine, de répondre à quelques questions.
Une petite précision sur l'inquiétude du laps de temps assez court. Tant mieux si on trouve que c'est assez court parce qu'il y a du monde, parce que cette réunion est la première et ça nous engagera justement à en organiser d'autres. Surdit.
Rendez-vous le mardi 24 mai à partir de 13h30 au Café Théâtre Andarta. Merci beaucoup Jean-Claude.
Merci.
Et merci beaucoup Daniel.
Merci.
Restez bien à l'écoute des ondes de RDOA sur le www.rdwa.fr ou le 107.5 FM. Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews en podcast. Bonne fin de journée à tous et à toutes.
Okay, the bird.